Et c'est marquant, Jacques Lavergne, bonjour. Qu'est-ce qu'un essai ? Bien, un essai est une œuvre de réflexion portant sur les sujets les plus divers, parfois polémiques ou partisans, mais pas obligatoirement. C'est un texte littéraire qui aborde des domaines variés, historiques, scientifiques, philosophiques, économiques, politiques, etc. Alors aujourd'hui, nous allons parler de mer, on va parler de poissons, d'alimentation, mais aussi de notre façon de consommer. Et tout cela grâce à un essai qui est intitulé « Un poison nommé saumon ». Je répète bien, un poison et pas un poisson. Hein. Un poison nommé saumon, ça annonce déjà la teneur du livre, sous-titré « Enquête sur une industrie dévastatrice ». C'est écrit par Maxime Carcel, publié aux éditions du Rocher. 238 pages, 20 euros, c'est agrémenté de photos, et franchement, les 20 euros, vous ne les regretterez pas. Alors, qui est Maxime Carcel ? C'est un documentariste spécialisé en environnement et société, donc un journaliste freelance qui a travaillé pour M6, qui a signé un certain nombre de films, documentaires pour Arte, Public Sénat, France 3, et puis également des reportages dans l'émission La Terre au Carré sur France Inter. Puis il écrit pour un certain nombre de médias, Ciné Mensuel, Blast et Reporter. L'éditeur, je vous l'ai dit, ce sont les éditions du Rocher, alors vieille maison d'édition qui a été créée le 1er novembre 1943, c'est précis, par un monsieur qui s'appelait Charles Orengo, qui est mort depuis longtemps, et elles font partie des rares maisons d'édition nées sous l'occupation, qui sont rescapées de l'occupation, et toujours, aujourd'hui, vivantes, c'est son cas. Alors en 1943, Plon va apporter son concours financier éditorial au fondateur, Charles Orengo, et un imprimeur, Jean Bétinas, va également aider à démarrer cette aventure littéraire. Et alors, elle démarre, c'est sa particularité, depuis Monaco. Et c'est une période difficile. Elle est lancée en pleine période de pénurie de papier, tandis que le territoire français n'est pas totalement libéré du joug nazi. Et la maison, en 1944, va déjà réussir à publier 18 ouvrages. Donc, c'est quand même une belle performance, surtout à cette époque-là. Alors, le premier d'entre eux sera un ouvrage de Georges Duhamel, qui est secrétaire perpétuel de l'Académie française, dont le nom fut très tôt inscrit sur les listes d'interdiction allemande. Et puis, ils vont publier également deux poèmes de Pierre Emmanuel, membre du comité de libération de la Drôme, qui ont été écrits dans le Vercors. 1945 à 1951, bien sûr, les éditions du Rocher élaborent une politique éditoriale de littérature générale autour de plusieurs auteurs de renom. On va trouver Giroudoux, Giono, Colette et d'autres. Les premières collections voient le jour, grands et petits chefs-d'œuvre, petits classiques illustrés, Le Monde d'aujourd'hui ou Le Sel de la Terre. Et puis la littérature étrangère est présente aussi avec le roman de Un cœur fier de l'américaine Pearl Buck, publié en 1945, une américaine qui a eu une heure littéraire de gloire importante. Et en 1948, les éditions aménagent rue Comte Félix Gastaldi, comme le nom peut vous le laisser penser. C'est sur le Rocher de Monaco, c'est actuellement le siège toujours de la maison. Donc nouveauté par an ramenée à une soixantaine. Hein. La maison retrouve une vocation de maison généraliste indépendante. Certaines des collections historiques sont poursuivies. La production éditoriale est concentrée sur trois domaines, la littérature, l'actualité, les documents, le bien-être pratique. Alors revenons à notre essai du jour, hein, « Poison nommé saumon » de Maxime Carcel, et je vous livre la quatrième de couverture. La France, c'est le pays d'Europe où l'on consomme le plus de saumon. En serait-il de même si chacun savait comment ils sont élevés, comment leur production est un défi au bien-être animal, densité, maladie, etc. Si l'on avait idée de la façon dont travaillent les multinationales qui possèdent l'essentiel des « fermes », fermes entre guillemets, salmonicoles, des fjords norvégiens au Chili, en passant par les lochs écossais. Il est loin le temps où les saumons sauvages s'ébrouaient dans nos rivières et dans les mers. Dans ce livre, dans ces fouillés, Maxime Carcel nous dévoile la face cachée de ces élevages, où pesticides, hormones et manipulations génétiques se cumulent. Sans compter les effets nocifs induits pour les nourrir, de la pêche intensive au large des côtes du Sénégal au détriment des populations locales, de crustacés et petits poissons pour fabriquer la farine animale avec laquelle sont nourris les saumons d'élevage, à l'utilisation intensive de soja, l'une des causes de la déforestation en Amazonie. Face à ce système profondément nocif, de nombreux militants luttent à travers le monde, un plaidoyer pour un changement de modèle et une prise de conscience urgente sur l'avenir des écosystèmes aquatiques, doublé d'une réflexion sur notre rapport à la consommation. Voilà pour ce qui est de la quatrième de couverture. Alors un coup d'œil sur la table des matières. Table des matières, alors je vous livre les grands chapitres, l'intitulé des grands chapitres. Alors vous avez bien sûr la préface de Paul Watson, une introduction qui a beaucoup d'intérêt. Et ensuite, les têtes de chapitre, à l'origine, un poisson sauvage, l'Empire Maui, donc M-O-W-I, vous verrez ce que c'est si vous lisez le livre, l'envers de la production, les lanceurs d'alerte à la manœuvre, pour les nourrir, la production chilienne, pression sur la France et la conclusion. On va faire quelques lectures, hein, prises un peu au hasard. La première, page 68, où l'auteur nous parle de ces saumons qui sont entassés, parce qu'entassés, le mot est juste, hein, une espèce de cage immergée en pleine mer dans des nasses. Voilà le texte. Cette promiscuité entraîne implacablement une augmentation exponentielle des maladies et une véritable orgie de parasites, tels les poux de mer, qui transmettent l'anémie infectieuse. À l'instar de l'être humain, pour qui le choléra est la maladie de la promiscuité et de l'insalubrité, les poux de mer sont ceux du saumon et de la truite d'élevage. Présents dans toutes les mers du globe, ces poux font partie de la famille des copépodes, qui regroupe 10 000 espèces. Pourvus d'antennes et d'un œil unique, ces petits crustacés sont indispensables dans l'équilibre des océans, en dévorant les micro-organismes prolificateurs, et sont à la base de la chaîne alimentaire aquatique. Selon les scientifiques, l'ordre des copépodes existerait depuis un demi-milliard d'années sur Terre, rien que ça. S'agissant du saumon, c'est le Lepoterus salmonis ou Laxellus qui se fixe sur la peau pour consommer le mucus, cette sécrétion visqueuse qui rend les poissons glissants. Mais souvent, il consomme aussi la peau et le sang. Des plaies ouvertes couvrent ainsi les poissons, commençant par la tête. Condamnés à souffrir jusqu'à la mort, ils peuvent être euthanasiés. Voilà, je ne poursuis pas parce qu'il faut que vous le lisiez directement, mais la suite, effectivement, vaut son pesant d'or. Alors, on pique ailleurs, on va à la page 92, sous l'intitulé « Le saumon sauvage en danger ». Ce saumon sauvage est en effet un baromètre de la santé de la planète. Il ne peut survivre que dans des eaux propres et fraîches. Et sa présence dans une rivière signale traditionnellement aux pêcheurs que l'eau est propre. Il incarne l'idée d'une espèce clé de voûte dont la disparition compromettrait la structure et le fonctionnement de l'écosystème. Placé au centre de la redistribution des nutriments dans la nature, il capte le phosphore, l'iode ou le potassium dans les mers. Puis il transmet ses nutriments à ses prédateurs, comme les aigles ou les ours, qui fertiliseront à leur tour la forêt avec leurs urines et leurs déjections. Des profondeurs des océans jusqu'au sommet des montagnes, le rôle du saumon est donc primordial. Et puis j'avais retenu, page 153, où on parlait du krill. Vous savez, le krill, c'est ce petit crustacé minuscule, hein, qui vit dans les eaux froides de la planète. Et leur nom commun vient du norvégien krill, qui signifie petit poisson ou aliment pour baleine. Alors voilà ce qu'écrit l'auteur. d'une importance capitale pour l'équilibre de la chaîne alimentaire. Ils se nourrissent de phytoplancton, des algues invisibles à l'œil nu, qui dérivent au gré des courants. Ces végétaux microscopiques, premier maillon de la chaîne alimentaire, produisent plus de la moitié de l'oxygène terrestre grâce à la photosynthèse et consomment la moitié du dioxyde de carbone. Ils représentent un puits de carbone essentiel pour notre survie. En effet, depuis le début de l'ère industrielle, les océans captent environ 25% des émissions globales de CO2 chaque année. En s'alimentant avec des phytoplanctons, les krills capturent à leur tour le CO2 qui sera stocké dans leurs excréments. Ces déchets organiques sont capables de séquestrer à chaque saison 20 mégatonnes de carbone qui tombent au fond des océans. Ce chiffre est comparable à la capacité cumulée des forêts de mangroves tropicales et subtropicales, c'est énorme. Et après, fin de citation bien sûr, et après l'auteur nous explique que ce krill est surpêché pour participer à l'alimentation des saumons, c'est-à-dire qu'ils vont être réduits sous forme de farine animale, et ils vont être saupoudrés ainsi dans les cages où s'entassent, encore une fois, les saumons. Alors, conclusion de cet essai, la première des conclusions, paradoxalement, on peut la trouver dans l'introduction. Je vous livre quelques passages. La fabrique à saumon fonctionne à plein tube et grossit à vue d'œil d'année en année, une croissance folle qui parvient même à étouffer le cri des défenseurs de la nature. Il était donc temps de faire une pause et de reprendre le fil conducteur de la production du saumon d'élevage qui entraîne la disparition de son cousin sauvage et nous entraîne par la même occasion dans une impasse mortifère. De son origine à son exploitation mondiale, truffée des poux de mer, du marché de la farine de poisson et de la déforestation en Amazonie au marasme écologique et social chilien, de la lutte citoyenne d'habitants et d'associations en Écosse à l'empire norvégien, le saumon d'élevage élimine le saumon sauvage, espèce autrefois largement répandue sur notre planète et a de graves conséquences écologiques. Alors je pourrais poursuivre. Il y a une conclusion qui est très importante où on nous parle par exemple de l'utilisation abusive et excessive d'hormones stéroïdes chez les poissons et ça devient un problème émergent à l'échelle mondiale. On nous dit aussi que la production exponentielle semble n'avoir aucune limite. L'élevage actuel est 115 fois supérieur à la plus grande quantité de saumon jamais pêchée en une année. Ça, ce sont des données des Nations Unies. Et puis, il y a beaucoup d'autres choses à apprendre dans ce texte de conclusion. Alors, bon, ce livre, pourquoi faut-il le lire, que nous apprend-il ? Vous en avez déjà une très grande idée, comme tout le monde, comme vous certainement, j'ai mangé du saumon, notamment fumé, sans me préoccuper ni de sa provenance, ni de ses conditions d'élevage. Mais à la lecture de ce livre précis, extrêmement documenté, j'ai découvert l'enfer du décor, un monde que j'étais très loin de soupçonner, un monde tout à fait terrifiant qu'il est urgent de dénoncer tant il constitue une menace pour les conditions d'habitabilité de la planète, de la Terre, dont il menace gravement les grands équilibres, une menace également pour la santé publique, et puis une menace pour le bien-être animal. Beaucoup de limites sont dépassées depuis longtemps par quelques multinationales dont on connaît les noms, elles sont très très peu nombreuses, on peut les avoir sur les doigts d'une main. Multinationales uniquement mues, mais c'est un grand classique, par le profit. Et pour une fois, nous consommateurs détenons un grand pouvoir, c'est celui de dire stop. Alors ne nous en privons pas et mettons fin à ce système délétère et dangereux pour tous. Faisons la grève de la consommation du saumon. Voilà, c'était Essai marquant par Jacques Lavergne, avec à la réalisation Sacha Gauchy. Et vous pourrez bien sûr retrouver le podcast de cette émission ainsi que ceux de toutes les autres sur le site d'Esprit Occitanie. Bonne lecture à toutes et à tous.